La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Pendant de nombreuses années, Alfred Hitchcock n'a été considéré que comme un génial artisan, un auteur hollywoodien de films à suspense, sans que soit souligné à quel point ce suspense prenait justement chez lui une valeur hautement troublante et liée à nos insécurités fondamentales. C'est grâce à ses angoisses qu'il nous a enchantés tout au long de ses 54 films pour le cinéma et de la vingtaine d'autres pour la télévision, parmi lesquels de nombreux chefs-d'œuvre dont nous allons parler jusqu'à jeudi. Jeudi donc, où Lydie de Cobert reviendra sur quelques motifs de son cinéma, comme la présence de nombreux escaliers. Elle parlera également de la musique dans ses films, ainsi que de son rapport à la peinture. La veille mercredi, c'est un philosophe, Laurent Van Eynde, qui viendra évoquer Alfred Hitchcock et son œuvre. Enfin, demain, Thierry Jousse nous fera parcourir l'œuvre et en déceler les grandes thématiques. Et aujourd'hui ?
How do you do, boys and girls? My name is Alfred Hitchcock, and I'm delighted to find that you believe in ghosts too.
Aujourd'hui, pour raconter la vie et singulièrement les débuts d'Alfred Hitchcock, nous sommes en compagnie du critique littéraire, romancier, traducteur, scénariste de bande dessinée François Rivière. Il est également biographe d'Agatha Christie, de Frédéric Dard, de Patricia Highsmith, du divin Chesterton, et aussi dans un livre publié en 2015 aux éditions Rivage, de Alfred Hitchcock, épitaphe pour Alfred Hitchcock, où l'on apprend d'ailleurs que le jeune cinéaste était un lecteur passionné de Chesterton, et donc pas seulement un lecteur d'Edgar Poe, le maître de la peur.
Eh bien, monsieur Hitchcock, je sais que vous êtes arrivé à Paris, mais que vous n'assistez pas aux premières en général.
Non. C'est pas nécessaire.
C'est pas nécessaire. Et c'est ce qui
parce
vous a...
Parce que le film et moi.
Et ici, est-ce que vous allez assister à la première de Psychose que nous verrons, nous aussi, ici?
Non, c'est pas possible, parce que je suis très, très nerveuse.
Ça vous fait peur?
Toujours la peur.
Toujours peur.
C'est pourquoi je fais la peur dans le film pour les autres.
Et oui, aujourd'hui, on va poser les jalons de la biographie d'Alfred Hitchcock, cet homme dont toute la vie et toute l'œuvre tournent autour de ce thème de la peur. Bonjour François Rivière.
Bonjour.
Vous rappelez d'ailleurs dans votre essai biographique que, tout comme son compatriote Thomas de Quincy, Hitchcock a toujours considéré l'assassinat comme l'un des beaux-arts.
Oui, il n'est pas le seul Anglais qui ait eu cette fascination pour le crime. Tous les Anglais l'ont. Et lui-même le disait d'ailleurs dans les interviews quand on lui demandait pourquoi il s'intéressait autant aux assassins célèbres ou non, ceux que des romanciers avaient inventés et qu'il avait lui-même porté à l'écran après. Il expliquait que les Anglais avaient la fibre criminalistique, enfin.
Et il essayait de comprendre pourquoi, parce qu'il y a beaucoup plus d'assassinats aux États-Unis qu'en Angleterre, mais en Angleterre, il y a une façon de tuer tout à fait spécifique. Il le disait évidemment avec humour.
Non, mais c'est ce que dit Thomas de Quincy. Les assassins sont des artistes. Enfin, il y a des affaires criminelles absolument magnifiques. Les Anglais, depuis plusieurs siècles, collectionnent ce qu'on appelle les famous trials, enfin les procès célèbres de criminels qui ont défrayé la chronique, et le tribunal de Old Bailey à Londres voit s'entasser, dès qu'il y a un procès important, voit s'entasser un public qui dévore du regard des gens qui ont commis des choses absolument épouvantables. Hitchcock était justement de ces gens qui allaient au procès, enfin allaient assister à des procès, lui et puis des tas d'auteurs de romans policiers. Il y a vraiment une espèce de fascination collective.
Hitchcock est un grand regardeur de ce qui se passe autour de lui. Et dès sa jeunesse, il naît le 13 août 1899 dans un faubourg assez sinistre de Londres, celui de Leighton Stone. Et dès l'âge de 8 ans, il va aller se balader dans la ville de Londres, les yeux grands ouverts.
Alors déjà, le quartier dans lequel il est né est un quartier qui résonne déjà du crime. Il y a eu beaucoup d'histoires criminelles, célèbres ou moins célèbres. C'est un quartier extrêmement vivant, c'est le quartier où vivent les Cockneys. Hitchcock est un Cockney, c'est-à-dire qu'il y a un parler typique, il y a une façon de voir les choses avec un sens de la dérision que les Anglais ont souvent, mais que les Cockneys ont particulièrement. Un goût pour le spectacle, ce qui fait que le petit Alfred profite de tout ce qu'il y a à proximité, c'est-à-dire des musicals, on en trouve dans ses films évidemment, qu'on se rappelle le Mister Memory des 39 marches par exemple, le musical, les premiers films, des films très courts hein, notamment, alors j'imagine, moi peut-être exagérais-je un peu, mais j'ai imaginé qu'il avait vu le premier biopic de l'histoire du cinéma, qui est un film de 10 minutes sur la vie d'Edgar Poe, réalisé par Griffith, le fameux pionnier du cinéma américain, et puis il y a le théâtre. Et le théâtre abonde en drame, en mélodrame. Enfin, c'est le boulevard du crime à l'anglaise, quoi.
Donc il va y admirer les jeunes premières.
Oui, il va y admirer beaucoup d'artistes, des jeunes premières, certaines même qui deviendront des actrices dans ses films. Alors, il avait un goût particulier pour un dramaturge qui n'est pas du tout lui spécialisé dans les affaires criminelles, mais qui est l'auteur de Peter Pan, James Matthew Barry, qui a écrit une pièce magnifique, une pièce un peu fantastique, qui s'intitule Mary Rose, et que Hitchcock a regardé, a vu, enfin, avec une fascination totale, et dans laquelle jouait une jeune actrice qui s'appelait Faye Compton et qui va devenir une actrice d'un des films d'Hitchcock. Le théâtre qui précède le cinéma. De toute façon, le cinéma, dès ses débuts, a porté à l'écran justement des drames célèbres.
Alors dans quel milieu justement intellectuel, culturel naît-il? Parce que il est d'une extraction modeste, de la petite bourgeoisie. Le père de Hitchcock s'occupe d'un magasin, enfin un magasin dans lequel il a finalement plutôt bien réussi, François Rivière.
Oui, le père est marchand de volaille, d'où l'abondance de volaille dans les films d'Hitchcock, et de poissons.
Les volailles sont effrayantes souvent dans les films d'Hitchcock.
Et on voit moins de poissons, mais on voit beaucoup de volatiles, notamment dans un film qui s'intitule justement Les Oiseaux. Mais on en voit beaucoup d'autres.
Mais on mange aussi dans Les Oiseaux des volatiles. C'est peut-être l'explication du fait que les oiseaux et les volatiles se retournent contre les hommes. Enfin, j'anticipe un peu sur
absolument.
La semaine
qui arrive. Il y a un volatile coriace dans l'assiette d'un inspecteur de police aussi dans Frenzy, qui vaut l'inspecteur dont la femme est une fan de cuisine mais complètement nulle, et le pauvre homme est obligé de s'envoyer des breakfasts à Scotland Yard. Bon, et mais alors c'est sûr que le milieu culturel est assez basique hein, mais Alfred découvre le monde, enfin notamment quand il suit son papa à Covent Garden, là au marché aux légumes et qu'on va retrouver d'ailleurs dans Frenzy beaucoup plus tard. Il s'intéresse à tout, il visite régulièrement les gares de Londres, il apprend par cœur tous les horaires des trains anglais.
Il fait du train spotting, comme on dit en anglais.
C'est un obsessionnel, hein, de toute façon. Un obsessionnel est quelqu'un qui mesure tout ce qui, dans la vie courante, dans la vie quotidienne des gens, fait peur, quoi. Parce que ça va être quand même son grand truc. On l'a entendu, d'ailleurs, juste au début de l'émission, il avait peur, toujours.
Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose avec la gourmandise liée au magasin de volailles, de poissons, de fruits et légumes du père, et puis à la mère aussi, qui est une très bonne cuisinière, mais qui est un petit peu rigide?
Oui, je pense que la vision, toutes ces choses consommables, peut-être pas donné envie d'emblée de devenir un gastronome. Mais sa mère, effectivement, était un cordon bleu. Plus tard, sa femme Alma sera aussi une très très bonne cuisinière. Mais dans l'enfance, il racontait qu'il regardait mûrir les bananes. Donc, effectivement, on peut imaginer qu'il s'ennuyait quand même un peu et qu'il avait besoin d'aller voir ailleurs des choses plus roboratives, mais pour l'esprit, quoi.
De la période de la toute de l'enfance, M. Hitchcock, on raconte toujours l'histoire du.
Of the period of their childhood, they always tell the story of.
L'histoire du commissariat.
Of the.
Quand son père l'avait fait enfermer.
Police station, when your father had you locked up.
Est-ce que c'est une histoire vraie?
Is that a true story?
Est-ce que vous pouvez la.
Well, I was just sent along with a note. I must have been 4 or 5 years
old. On m'a envoyé avec une note. J'avais peut-être 4 ou 5 ans.
And the head of the police read it.
Et le commissaire de police l'a lu.
And put me into the cell.
Il m'a mis dans la cellule.
And said, that's what we do to naughty boys.
Il a dit voilà ce qu'on fait aux petits garçons méchants, vilains.
Et qu'est-ce que M. Hitchcock avait fait pour mériter
ça? And what had you done to deserve that?
I cannot imagine, because my father
used. Je ne peux pas m'imaginer parce que mon père.
Because my father used to call me the little lamb without a spot.
Parce que mon père m'appelait toujours le petit brebis sans une tache, sans tache. Tu ne peux pas m'imaginer ce que j'ai pu faire.
Mais il était très sévère, paraît-il.
But he was very severe with you, yes, with Stern. Oui.
Des entretiens de Hitchcock avec François Truffaut dans une traduction d'Hélène Scott. Qu'est-ce qu'on peut dire alors des parents de Hitchcock? Alors le grand-père déjà, on peut même remonter jusqu'à lui puisqu'il était policier apparemment, le grand-père maternel. Et puis ensuite, il y a donc le père qui l'envoie pour le punir. Voilà ce qu'on fait au petit garçon. C'est d'ailleurs ce qu'il va faillir écrire sur sa tombe.
Oui, l'anecdote est tellement belle qu'on finit par se demander si elle est authentique. Hein. Franchement, enfin, en tout cas, moi, je me pose la question, mais peu importe. Effectivement, le père devait être comme beaucoup d'hommes qui travaillaient beaucoup, qui étaient un peu sévères avec son fils. De toute façon, il l'a perdu quand il avait 14 ans, Hitchcock. Et après, il a vécu avec sa mère. Et je pense que le personnage de la mère est quand même très important parce qu'on le retrouve dans toute son œuvre. Une mère, une femme, justement une cockney, sachant tout, étant au courant de tout, s'intéressant à tout, extrêmement possessive, donc avec son fils, parce qu'il avait une sœur et un frère aîné, mais il était le seul à vivre en permanence au quotidien avec sa mère et qui surveillait absolument tout de sa vie à lui, qui l'obligeait à venir tous les soirs s'asseoir au pied de son lit pour lui raconter sa journée. Ça anticipe un peu sur la mère de Claude Reims dans Notorious, dans Les Enchaînés, et d'autres
personnes. C'est dans Psychose.
On n'en finira pas. Alors, non, mais la mère de Psychose, alors là, c'est l'apothéose totale. Enfin, il y a une célèbre photo publicitaire de Hitchcock qui pose assis dans un fauteuil sur lequel est écrit Mrs. Bates. On a compris, quand il faisait la promotion de Psychose, il n'arrêtait pas de dire, vous savez, le meilleur ami d'un garçon, c'est quand même sa mère. Bon, donc.
Mais à quel point on peut rapprocher quand même la mère de Hitchcock avec Mrs. Bates, la mère du psychopathe dans Psychose?
Oui, c'est-à-dire que le fils finit, mais ça, on est au fin fond de la psychose, enfin, en tout cas, dans le cas au moins dans le cas de Norman Bates, le garçon devient sa mère, quoi. Et même si Hitchcock n'est pas devenu sa mère, on a bien compris qu'elle l'avait marqué de manière indélébile. Enfin, et s'il n'avait pas eu la chance de rencontrer celle qui allait devenir la compagne de sa vie, sa femme et sa meilleure collaboratrice, hein, et une excellente cuisinière, on ne sait pas trop ce qui serait passé. Enfin.
Alors plus tard dans la vie d'Hitchcock, il y a la Seconde Guerre mondiale et il raconte comment sa mère, justement, c'est une bonne illustration de sa personnalité, pendant les bombardements, mettait un soin infini à s'habiller correctement pour descendre, parce que tout est dans la retenue avec la mère d'Hitchcock.
Oui, il y a ce côté, mais qu'on retrouve chez lui, justement, cette manière, qu'il avait justement s'habiller de manière très formelle, comme on dit en anglais, formal, il s'habillait comme un croque-mort. Il le disait lui-même, d'ailleurs, je ressemble à un croque-mort, cette façon de ne rien dire, finalement, de tout retenir, mais de tout faire passer dans sa pratique artistique.
Alors, le catholicisme de cette famille, il faut en dire un mot parce qu'on est dans un pays anglican. Est-ce que ça les place un petit peu à part, les Hitchcock?
Les catholiques en Angleterre, oui, sont des gens à part, forcément. Il étonne un peu. Bon, lui a été éduqué en partie dans un collège tenu, si je puis dire, par des jésuites. Il aimait pas du tout les jésuites. Il se moquait bien d'eux. Ça a été assez douloureux pour lui. Par ailleurs, comme c'était déjà un garçon en surpoids, comme on dit, les autres garçons se moquaient beaucoup de lui. Mais le catholicisme lui a laissé des traces, justement, au point qu'on l'a même qualifié. Quand Claude Chabrol et Eric Homer ont écrit ce qui est, je crois, le premier livre sur Alfred Hitchcock, il parlait de lui comme d'un cinéaste catholique, vraiment. Et c'est vrai qu'on retrouve des traces, mais plutôt dans le côté mystérieux, dans le côté intrigant, inquiétant de la religion.
Donc à 14 ans, il a été retiré de chez les jésuites, mais de toute façon, ça valait mieux dans un sens, puisque c'était aussi quand même les jésuites qui lui avaient appris qui l'avaient enseigné grâce aux punitions corporelles, le suspense. Il l'a raconté, c'est les jésuites qui l'ont inventé. C'est-à-dire que quand les petits garçons avaient fait une bêtise quelconque au collège, on leur disait qu'ils allaient recevoir des coups de canne. C'était une canne en caoutchouc qu'on leur donnait des coups avec. Et alors, on ne leur disait pas, on leur disait au début de la journée qu'ils allaient être punis, mais on ne leur disait pas combien de coups de canne ils allaient recevoir, ni quand. Alors, dès que l'enfant savait ça, il commençait à trembler et à être pétrifié de peur parce qu'il ne savait pas si ça allait être beaucoup de coups de canne et il ne savait pas combien de temps il allait attendre pour les recevoir. Et en plus, ce qu'il savait, c'est qu'il serait donné devant tous les autres petits garçons qui, bien entendu, se moqueraient de lui impitoyablement. Alors, la combinaison de ces trois choses, ces trois terreurs avec le temps, donc puisqu'il ne savait pas quand la terreur allait se produire, c'est ça qui a donné naissance au suspense, selon Hitchcock, puisque le suspense, c'est de faire peur aux gens, mais en les surprenant.
Une archive de Bruno Villien, le biographe, ou l'un des biographes d'Hitchcock, archive de 1984. Alors, cette éducation chrétienne... Elle a été souvent tournée en dérision, François Rivière, par Hitchcock lui-même, mais il y est probablement resté profondément soumis, et cela jusqu'à la fin de sa vie.
Soumis à la religion, enfin...
À une forme de cadenassage aussi,
oui,
mental. Oui. Je ne veux pas dire ça de la part de toutes les religions, évidemment,
paradoxalement,
en l'occurrence.
Il a quand même montré le pire de la nature humaine à travers le crime. Il a quand même une obsession permanente du crime. Hein. Le seul film qui n'est pas vraiment intéressant chez Hitchcock, c'est Mr. and Mrs. Smith, parce qu'il n'y a pas de crime, justement.
Il ne sait pas faire sans crime, alors.
Oui, mais effectivement, le péché suprême, enfin bon, le péché absolu que commet, je reviens toujours à Frenzy, qui est vraiment pour moi un film extraordinaire, où il y a absolument tout, où l'assassin qui est monstrueux, enfin littéralement, vit avec sa maman, et effectivement, on sent bien qu'il est retenu Hitchcock, et c'est ce qui fait son charme. Enfin, c'est ce qui fait justement que tout est tenu, mais dans le bon sens, dans ce qu'il fait en tant que cinéaste.
Est-ce que lui se pense comme un innocent dans un monde coupable, comme il le disait à Truffaut dans l'un des entretiens?
Ben, peut-être qu'il se sentait coupable dans sa tête, enfin, de crimes qu'il n'avait pas commis. Une de ses obsessions en matière de crimes, d'assassinat, c'était la strangulation. Et il s'était amusé un jour à se faire photographier devant une affiche du film qui s'intitule en français L'Inconnu du Nord Express, mais qui est en anglais, s'intitule Strangers on a Train. Et si vous ajoutez un L à Strangers, ça donne Strangler, ça donne étrangleur, et il mimait l'étranglement, et c'est quelque chose qu'il aimait beaucoup. Alors bien sûr, c'est un jeu d'enfant, d'une certaine manière, mais d'un enfant qui est quand même obsédé par pas mal de choses qui relèvent justement du péché absolu, enfin du crime.
Il y avait un peu de sadisme aussi chez le jeune Hitchcock, chez les jésuites, qui se vengeaient un petit peu de ses camarades de classe qu'il traitait le petit gros.
Oui, alors, quand on commençait un peu trop à l'énerver, effectivement, il se vengeait, notamment le jour où il s'est amusé, là, c'est un jeu cruel et un peu à la limite du bon goût, à mettre un pétard dans le pantalon d'un de ses condisciples, parce qu'au fond, oui, la règle, jésuitique en matière d'éducation, qui était celle aussi de tous les collèges anglais. Hein. De toute façon, il n'y a pas que chez les jésuites. L'angoissait au fond terriblement, parce que moi je pense qu'il était comme beaucoup de gens qui ont le désir d'aller au-delà de la vie normale, enfin d'une vie classique. Il était épris de liberté au fond. Alors bizarre, paradoxalement, on a l'impression que sa vie est très contrainte, enfin, mais au fond, il a connu la liberté absolue en régnant sur le reste du monde sous forme de maître de la peur, quoi.
Épris de liberté et épris de fiction, parce que on a l'impression que dès ces années-là, c'est dans les livres qu'il se réfugie, que finalement le monde il l'a presque un peu abandonné et que il se consacre quasiment entièrement à la fiction.
Oui, alors ce qu'on oublie quelquefois, c'est sa passion pour la littérature, pour la fiction, mais pour l'écrit, enfin pour la littérature. Il avait une passion pour Bernard Shaw, l'auteur de drames. Il avait une passion aussi pour H.G. Wells. Il adorait Chesterton, bon, qui était un écrivain moins connu, mais qui l'a beaucoup marqué, et à qui d'ailleurs il a emprunté le titre d'un de ses livres, hein, L'homme qui en savait trop, et qui au fond lui plaisait, parce qu'il était lui aussi, Chesterton s'était converti au catholicisme, donc il se retrouvait aussi sur la religion. Et Hitchcock lisait énormément d'une forme de fiction qui est la fiction policière, enfin le roman policier, et il a adapté énormément de livres. En fait, lui et sa femme ont énormément lu, avaient quand même une espèce un vrai respect pour les œuvres littéraires qui les inspiraient, enfin qui ont donné matière à des films.
Et Dickens, dont on imagine qu'il décrivait un petit peu des milieux quelques décennies avant, mais que Hitchcock a pu connaître, est-ce qu'il le lisait beaucoup?
Bah, il a lu Dickens comme, j'allais dire, comme tout le monde, enfin comme beaucoup de gens, d'autant qu'il était né dans un milieu, dans un monde, enfin dans un décor qui était celui des romans de Dickens, de Wilkie Collins, qui un peu à l'ombre de Dickens, mais qui est l'inventeur du roman policier littéralement, hein, avec La Femme en Blanc, La Pierre de Lune, et évidemment Hitchcock a lu, c'est l'inventeur du thriller en fait. On a tendance à considérer que ce sont des genres mineurs, mais pour les Anglais, surtout à cette époque qui est l'époque édouardienne, quoi, l'époque qui succède à l'époque victorienne, ces romans à sensation sont des choses qui sont pratiquées par des gens qui sont des grands artistes de la plume, hein, vraiment.
Mais alors, la référence, c'est peut-être tout de même son écrivain favori, c'est Edgar Poe, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Edgar Poe, dont il a dit « J'ai éprouvé une immense pitié à son endroit parce qu'en dépit de son talent, il a toujours été malheureux. »
Bah, il faut dire qu'Edgar Poe, c'est un personnage absolument extraordinaire. Curieusement, les Anglais l'ont peut-être presque plus apprécié que les Américains, du moins à l'époque où Alfred Hitchcock l'a lu. C'est un grand poète, mais ce sont surtout les histoires extraordinaires, quoi, de Poe qui sont des structures magnifiques. Pour quelqu'un qui va devenir un auteur de film, c'est sûr que les nouvelles, les contes d'Edgar Poe sont des merveilles, enfin des joyaux de fiction. Edgar Poe qui a inventé littéralement lui aussi à sa manière le roman policier, avec des histoires comme Double Assassinat dans la rue Morgue et d'autres, La Lettre Volée qui est une espèce de référence constante dans la littérature policière. Là, on est dans un domaine effectivement que Hitchcock a beaucoup pratiqué.
Et votre ambition à ce moment-là, c'était de devenir ingénieur.
And your ambition at that moment was to become an engineer?
Well, all little boys are asked what do they want to be when they grow up.
On demande à tous les petits garçons ce qu'ils veulent devenir quand ils deviendront grands.
And you say engineer.
Et on dit ingénieur.
And my parents took me seriously.
Et mes parents ont pris au sérieux.
So they sent me to an engineering school.
Alors ils m'ont envoyé à une école d'ingénieurs.
Ah oui, c'est ça. Oui, mais enfin, quand même, vous aviez peut-être une curiosité plus scientifique.
But perhaps you did have a more a curiosity for science.
Well, I was able to pick up quite an amount of knowledge of.
Eh bien, j'ai tout de même acquis une certaine connaissance
practical engineering,
de l'ingénieur pratique,
des theory of laws of force and motion,
la théorie des lois de la force et de la motion,
electricity,
de l'électricité,
theoretically and applied. I learned to be a draftsman.
Et appliqué. J'ai appris à être un dessinateur.
Which helped me later on when I became an art director.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Et oui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, François Rivière, Hitchcock n'a jamais répondu policier à la question « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?»
Oui, je pense que finalement, il a suivi un dessin qui n'était pas facile au départ pour lui, parce qu'il n'était pas question qu'il devienne épicier comme son papa. Ses parents l'ont envoyé non pas dans une école d'ingénieur comme j'ai cru l'entendre dire, mais dans une école, l'ont fait s'engager dans une firme de câbles électriques où il est tout de suite devenu dessinateur. Parce que c'est ça, c'était son grand truc, c'était le dessin. D'ailleurs, ça, toute sa vie, il a sinon fait lui-même les storyboards de ses films, mais énormément contribué par le graphisme et à l'écriture de ses œuvres. Et puis il est passé directement au premier studio qui l'a engagé. À la fin, au début des années 20.
Donc ça, c'est la compagnie télégraphique Henley à laquelle vous faites référence. Est-ce qu'il rentre aussi dans cette compagnie parce que son père, vous l'avez dit, est mort quand il était encore assez jeune, qu'il devait tout simplement subvenir aux besoins de la famille?
Oui, il a fallu qu'il aide sa mère, en fait, à vivre un peu. Autant du temps de son père, tout allait bien. Là, d'un seul coup, il a fallu qu'il contribue un peu au bien-être familial. Mais très très vite, il est devenu déjà un artiste.
Il prenait des cours aux Beaux-Arts.
Il a suivi des cours, oui, de portraits. Aux Beaux-Arts, tout en travaillant donc chez Henley. Et chez Henley, on lui a confié très vite la rédaction en chef, si on peut dire, d'un petit magazine dans lequel il faisait des dessins. Et il a même écrit des textes, quelques textes, dont un qui a survécu, qui est une histoire assez... pas vraiment à la manière de Poe, ça serait beaucoup dire, mais plutôt du théâtre du Grand Guignol dont il avait connu l'existence, où il raconte qu'une femme est torturée dans un fauteuil et on comprend à la fin de l'histoire qu'elle est chez le dentiste en fait.
Mais c'est déjà Gaz Hilarant et on peut le lire dans le recueil Ferme les yeux et vois, publié par Marest éditeur il y a très peu, qui est un livre qui regroupe des écrits d'Alfred Hitchcock, parce qu'il y avait une volonté d'Hitchcock finalement d'écrire, ça le démangeait aussi cette forme d'expression.
Oui, c'était un lecteur et c'était quelqu'un qui savait écrire comme tous les garçons intelligents de son époque qui, même en dehors des études, avaient une pratique, l'écriture, le dessin, tout ça, les scénarios, il a quand même contribué pas mal à la rédaction de certains scénarios avec son épouse, même si c'était pas son activité principale. Et puis il était marqué tellement par des écrivains qui l'inspirait, qu'il a lui-même voulu mettre la main et donc il a écrit effectivement. Je crois qu'on peut dire que l'écriture, entre l'écriture tout court et puis le tournage d'un film, la réalisation d'un film, surtout que ces films, il les avait dans la tête déjà, ils étaient écrits dans sa tête. On a un Hitchcock écrivain.
Alors comment ça se passe, la transition de l'ingénieur dans l'entreprise de câbles, qui devient un petit peu publicitaire dans cette entreprise de câbles, et qui tout d'un coup va se retrouver à 25, 26, 27 ans à faire des films?
Ben, ça se passe par un moment où il découvre qu'une compagnie de cinéma américaine, la Famous Players Lasky, s'est installée dans des studios, dans un hangar plutôt, qui ne sont pas encore des studios, mais un grand hangar qui va devenir les studios Famous Players à Islington, un faubourg qui est proche de celui où il a toujours vécu, et il se fait engager comme calligraphe des titres, des intertitres qu'on mettait dans les films, puisque c'était des films non parlants à l'époque. Et ça l'amuse beaucoup parce que déjà il travaille avec des scénaristes qui sont des femmes, des américaines qui travaillent pour cette firme.
C'est un milieu entièrement américain d'ailleurs.
Ce sont tous des américains, voilà, qui travaillent dans ces studios d'Islington, enfin dans ce qui va devenir les studios d'Islington. Et donc il s'amuse beaucoup à détourner un peu le sens des scénarios originaux en écrivant un peu n'importe quoi sur les fameux panneaux qu'on voit après dans les films sous forme de titre, jusqu'au jour où quelqu'un va lui dire mais tu pourrais peut-être nous aider un peu à réaliser. Enfin, il va pas commencer directement à être réalisateur. On va surtout lui demander d'aller observer un peu la manière dont on filme, dont on fait des films, dans ce qui est à ce moment-là un peu le studio modèle. Enfin, sont les studios allemands de Babelsberg. Mmh. Il le connaîtra jamais vraiment, mais il observe Murnau, qui est quand même le grand réalisateur du cinéma.
Et la grande référence pour Hitchcock, même s'il
ne
le dira pas de manière tellement explicite.
Non, mais c'est l'exemple de Murnau qu'il voit tourner à Berlin, enfin à Babelsberg, va être décisif. Et une fois rentré à Londres, et quand il va enfin pouvoir réaliser, enfin devenir assistant, puis après réalisateur, effectivement, l'expressionnisme allemand aura une influence énorme, quoi.
Alors, c'est au cours de ce voyage en Allemagne qu'il se déclare auprès de Alma, donc cette femme dont vous parliez, qui va devenir sa femme tout au long de sa vie. C'est assez drôle d'ailleurs la manière dont ça se passe sur le bateau, où il y a beaucoup apparemment de roulis et de tangages.
Oui, là, il était un peu décomplexé parce qu'au début, enfin, quand il a connu Alma, il était un peu gêné parce qu'elle avait des attributions plus importantes que les siennes. Elle était monteuse déjà, alors que lui était rien du tout à l'époque où il faisait les intertitres. Mais ils partent ensemble, effectivement, en Allemagne, et Hitchcock commence à trouver que cette jeune femme est très intéressante et que ça pourrait être une collaboratrice extraordinaire et peut-être une compagne, et même une compagne. Et sur le bateau du retour, pendant une tempête, alors qu'Alma est malade comme un chien, il lui propose, comme on dit en anglais, enfin, il lui demande de devenir sa femme, et elle lui répond dans un ok. Enfin, la scène est absolument terrifiante.
Alors à ce moment-là, il n'a pas connu beaucoup de femmes, voire même il n'en a pas connu du tout, et il n'en connaîtra pas tellement d'autres.
Non, pas du tout d'autres. On peut dire, pour autant qu'on puisse le dire, que effectivement Alma sera la femme de sa vie. Mais ce sera la femme idéale, puisque, comme il le dira un soir, beaucoup plus tard, en recevant une distinction à Hollywood, il dit qu'il y a quatre personnes qui l'ont vraiment marqué dans sa vie, quatre femmes, une qui était sa meilleure collaboratrice, etc., une qui était une excellente cuisinière, et une qui était sa femme, Alma. Enfin, et effectivement, jusqu'au bout, Alma sera sa... Effectivement, on peut pas dire ça autrement, sa collaboratrice absolue. Elle interviendra énormément. Déjà, elle lit énormément de choses pour préparer les films, enfin pour amener un peu, sélectionner ce qui sera le film d'après. Elle a écrit des scénarios. Le scénario de Rebecca lui doit beaucoup. Elle l'a coécrit avec une autre jeune femme qui a travaillé longtemps pour Hitchcock, qui était la productrice de sa série télévisée. Et effectivement, ce sera très important pour lui.
Hitchcock est un dandy. C'est évident. C'est évident. Tout son discours est un discours de dandy. J'entends par dandy la morale dandy, la philosophie dandy, donc le mode de vie. Et sa façon même d'être, finalement, c'est quelqu'un qui, de par son corps, ne pouvait en aucun cas prétendre au dandysme, et qui pourtant, dans toute son attitude, a été un dandy. Rien ne me touche. Je ne me laisse pas toucher. Je ne me laisse pas. Personne n'a de prise sur moi. Voilà. Et ça, c'est Hitchcock. Je crois.
La Compagnie des œuvres sur France Culture et à l'instant Jean Douché qui était en 1985 dans cette archive au micro de Laurence Drummond. Ça veut dire quoi être un dandy dans le cas de Hitchcock, François Rivière?
Je trouve que ça lui colle assez bien, même si ça peut sembler déplacé. C'est Hitchcock, c'est un gros monsieur qui effectivement n'avait pas beaucoup d'allure, même si on sait que quand il avait 20 ans, il suivait des cours de danse, d'une danse de salon avec quelqu'un de son entourage, et quand on le voit se déplacer, il avait cette légèreté qu'ont souvent les gens très très amples. Mais dandy, il l'était dans sa manière d'être avec les gens. Enfin, pas forcément dans cette tenue vestimentaire, parce que c'est ces costumes qu'on croit toujours noirs, mais qui étaient en fait bleu foncé. Et il insistait toujours pour dire ça. Ces costumes témoignent plutôt de quelque chose de très très classique, évidemment. Mais cette attitude de dandy, on la trouve effectivement dans sa relation quand on arrive à percer un peu le secret avec certaines actrices, notamment, même si par ailleurs il pouvait être absolument immonde pour des raisons d'humour irrépressible. Mais le dandy, il est essentiellement, je sais pas ce que voulait dire Jean Douché exactement, mais il est dans son art, quoi, essentiellement en fait.
Mais quand il fait la blague du marin siffleur que vous allez nous raconter, François Rivière, est-ce que c'est une attitude de dandy?
La blague du marin siffleur, oui, c'est une espèce de petite scénette qu'il offrait à son équipe de tournage, mais à ses débuts, enfin dans les années 30 encore.
Il avait déjà un bon ventre.
Hitchcock apparaissait torse nu, ce qui était déjà un spectacle, avec grimé rouge à lèvres, enfin, ou on ne sait pas trop comment, maquillage sur son torse, des lèvres, et il se dandinait, il se contorsionnait de manière à faire en sorte que ses lèvres bougent. Et le spectacle était à la limite de l'obscénité. Les personnes du sexe, comme on dit, étaient au bord de l'évanouissement, et les hommes se marraient comme des tordus. Et ça, c'est le Hitchcock graveleux. C'est le Cockney, c'est le Cockney côté pub les soirs d'ivresse, quoi. C'est vraiment. Il y a une distance énorme entre ça. Même si c'est un peu du deuxième degré ou du troisième degré, et le dandysme qu'on imagine dans sa relation avec des gens, enfin je sais pas, avec toutes sortes de gens du monde du spectacle qu'il a fréquenté. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de documents. On peut imaginer les choses. Je sais pas, j'imagine, ça a peut-être pas un rapport direct, mais quand il est arrivé aux États-Unis à la fin des années 30. Avant de tourner Rebecca, on lui a demandé de faire une causerie à l'université de Yale, et il a fasciné les étudiants pendant une heure entière en leur parlant du théâtre édouardien et des grands dramaturges, etc. Enfin bon, je crois qu'on a une image un peu réduite du vrai Hitchcock.
Alors, puisque vous abordez directement cette question du passage de l'Angleterre aux États-Unis, il faut redire un petit peu qu'il y a un certain nombre de premiers films en Angleterre, les films muets déjà, pour commencer, parce qu'il aimait beaucoup faire des films muets.
Ben oui, il avait appris, enfin, le fameux exemple de Murnau, bon, c'est le cinéma expressionniste, muet bien sûr, il a commencé par faire des films qui était sans parole, mais c'est une école extraordinaire, parce que toute sa carrière en fait est constituée, enfin sa filmographie, il insistait beaucoup pour le dire lui-même, est constituée de films qu'on peut comprendre parfaitement, dont on peut comprendre l'action parfaitement, même si on n'a pas les paroles.
Donc les dialogues sont superfétatoires, alors.
C'est la technique du muet, enfin, où on comprend tout, bon, même s'il y a des intertitres, sauf que dans les films Hitchcock, bien entendu, ont besoin quand même non seulement d'une intrigue sophistiquée, mais quand même aussi de dialogue, même s'il a quelquefois demandé à des acteurs de supprimer tel dialogue qu'ils avaient à dire, comme notamment James Stewart dans L'homme qui en savait trop, où James Stewart a tout un truc à dire tout en montant un escalier. Il n'y arrivait pas, et Chuck lui dit c'est pas la peine, de toute façon on s'en fiche, tout le monde va comprendre quand même. Et donc, effectivement, le muet, la technique du cinéma, c'est la technique du cinéma muet.
Il y a une nostalgie du muet chez lui, vous croyez?
Oui, bah sur, moi je pense jusqu'au bout. Enfin, de toute façon, toutes les scènes les plus importantes, même quand elles sont soutenues par une musique, bon, comme les musiques de Bernard Herrmann qui sont magnifiques, hein, jusqu'au moment où Hitchcock en a eu assez de lui, toutes ces scènes sont des scènes où il n'y a pas de dialogue. Enfin, la scène de la douche, on comprend tout, même si on n'a pas de... De toute façon, il n'y a pas de dialogue, mais même si on n'a pas le son. Non, c'est, c'est un langage, enfin, c'est une écriture, vraiment, quoi.
The work done in England,
le travail fait en Angleterre,
was the growth and development of instinct.
Était l'évolution et le développement de l'instinct.
Based the instinct of ideas,
l'instinct des idées,
but the technical work was well established.
Mais le travail technique a été fermement établi.
The work, the technique of the use of camera,
la technique de l'utilisation de la caméra,
went well back to the beginning,
daté
as far back as the Lodger.
De la période du Lodger.
That one might term that in those all over all that period.
Cette période d'ensemble pourrait se décrire.
The feeling for cinema.
La sensation du cinéma.
The latter period, the later period, was the beginning of the formation of ideas.
De la formation des idées.
Pensez-vous, François Rivière, de ce découpage que fait Hitchcock avec la sensation du cinéma durant la période anglaise et le développement des idées dans la période hollywoodienne ?
Oui, c'est sûr que quand il est arrivé à Hollywood, peut-être pas immédiatement avec Rebecca, qui est un film complètement anglais d'une certaine manière, mais où là il commence à lutter avec les producteurs parce que curieusement, quand il a quitté l'Angleterre en 39, il était considéré comme un réalisateur encore jeune, d'avant-garde quasiment. Enfin, c'est-à-dire tous ses films étaient des films qui séduisaient ou pas d'ailleurs, mais enfin pour des raisons de nouveauté totale. Alors que quand il est à Hollywood, enfin, quand il arrive là-bas et qu'il commence à faire des films à Hollywood, il entre dans la fabrique du cinéma à l'américaine et il est un peu censé se plier aux règles du genre. Et,
il va toujours garder sa liberté.
Et il faut qu'il s'adapte, c'est-à-dire qu'en fait, il va plutôt faire en sorte que les studios d'Hollywood s'adaptent à lui. Par exemple, quand il tourne Rebecca, justement, avec comme producteur David Selznick, qui est visiblement un personnage un peu, enfin, totalement tyrannique, très possessif, avec qui veut tout, qui est le producteur absolu, quoi. Hitchcock s'arrange pour tourner le minimum, c'est-à-dire ne faire qu'une prise la plupart du temps, pour que Selznick, qui avait la réputation de remonter complètement les films derrière le réalisateur, puisse pas le faire, quoi.
Mais il y avait une fascination quand même chez Hitchcock du cinéma américain. Est-ce que c'est lui qui veut aller à Hollywood ou c'est le contraire? Est-ce que c'est Hollywood qui va le chercher?
Bah, Hollywood est venu le chercher, hein, d'une certaine manière, mais il aurait pu refuser, il aurait pu rester justement, parce qu'en Angleterre, il avait une position qui était déjà assez intéressante, enfin, où il pouvait devenir, c'était à ce moment-là, peut-être pas le meilleur, mais un des meilleurs réalisateurs anglais, et puis Hollywood, il n'y avait pas beaucoup de réalisateurs anglais qui avait pris le chemin d'Hollywood. Il y en avait un quand même, et lui-même le dit dans les interviews, quand on lui pose la question, c'était James Whale, le réalisateur de Frankenstein et de très très beaux films, mais Hitchcock arrive quand même comme un jeune génie du cinéma anglais qui va prendre position, mais qui va s'imposer, en fait, qui va vraiment s'imposer par sa manière de faire, en fait.
Alors, quels vous semblent les grands films qu'il faut mentionner dans ces années 40, qui sont les grandes années d'Hollywood, avec les années 50 aussi?
Bah, les films, là je serais même incapable comme ça m'a même plus à l'idée, puisque il se retrouve à faire un film que moi je trouve absolument magnifique, qui est Les Enchaînés, Notorious, avec Cary Grant, parce qu'au fond, ce qu'il a à sa disposition, sous la main, ce sont des acteurs, quoi, des grands acteurs qu'il va vouloir utiliser au maximum. Il adore Cary Grant, donc Cary Grant va jouer, bien sûr, dans ses films. Il découvre des actrices, enfin, alors, il y en a une qu'il a déjà sous la main, si je puis dire, c'est Bergman.
Donc les fameuses blondes de Hitchcock.
Et puis, voilà, émerge la blonde que va incarner de manière absolue, enfin, en tout cas, pendant un certain temps, Grace Kelly, mais malheureusement, un jour, elle va laisser tomber le cinéma. Et au fond, on a l'impression quand même qu'il joue beaucoup avec ses fétiches, quoi, que sont les acteurs. Et c'est un peu ça qui va, par moments, même faire que ses films ne seront pas toujours les... Tous ces films ne seront pas des chefs-d'œuvre, hein, de toute façon. Et même lorsqu'il fera tourner Kim Novak dans Vertigo, c'est pas exactement l'actrice qu'il aurait aimé avoir, parce qu'il se heurte aussi à cette espèce de difficulté du showbiz américain, enfin, du fait que les actrices ont du caractère, les studios sont difficiles à manipuler. Enfin bon, il va quand même lutter pas mal pour arriver à faire ce qu'il a à faire, quoi.
Mais leur vie à lui et sa femme Alma et à leur fille Patricia, qui arrive aussi dans les années 40, c'est quand même le cinéma. On a l'impression que ça se résume même au cinéma.
Pardon,
leur vie, est-ce que...
Leur vie, oui, leur existence. Oui, de toute façon, ils sont là pour ça. C'est-à-dire que non seulement ils ne s'intègrent pas du tout à la communauté hollywoodienne, mais dans le sens des mondanités, etc. Enfin, la maison Hitchcock sera la seule, pratiquement, à n'avoir ni piscine, ni cours de tennis. Ils deviennent amis avec Clark Gable et Carol Lombard, la pauvre qui va mourir.
Bon, c'est pas si mal, hein.
Mais c'est pas du tout quelqu'un qui compte, qui ferait vraiment, comme on dit, avec ce milieu. Il aura jamais d'Oscar, hein. Non, c'est bien sûr que sa vie, c'est le cinéma, c'est d'arriver à faire des films.
Il avait ce sens visuel très fort. Et pour en revenir à son émotivité aussi, un goût pour les sujets de... Ça vient peut-être aussi parce qu'il était britannique, il n'était pas américain, donc un goût pour les sujets de dégradation sociale, de choses comme ça, de corruption, un amour de la beauté très grand, parce qu'il aimait ce qui est beau, et il aimait les belles femmes aussi, mais il estimait qu'elles étaient de l'autre côté d'une vitre, que ça n'était pas pour lui, qu'il n'avait pas à y toucher. Je pense que lui-même se voyait un peu comme un monstre. Et ça passe à travers plusieurs de ses films, ça. Et alors, il était au fond un abstentionniste de la vie. Il estimait qu'il n'avait pas à faire partie de la vie. Mais par contre, lorsqu'il tournait, ça, il devenait très actif. Et à ce moment-là, il y avait même peut-être un aspect de vengeance, parce que dans ses derniers films, il y a tout d'un coup une quantité de viols qui apparaissent, qui n'étaient pas dans les premières parties de son œuvre.
Entretien de Laure Adler avec François Truffaut en 1984. Il y a quelque chose de sombre, d'un peu tragique au fond dans cette vie aussi d'Hitchcock qui paraît comme ça sans aspérité.
Mais Hitchcock, c'est un homme qui transporte avec lui des fantômes, des fantômes anglais, hein, les fantômes de son enfance, notamment celui de sa mère, enfin, qui a refusé de venir le rejoindre à Hollywood. Donc elle reste en Angleterre. Et arrive la Seconde Guerre mondiale, et le moment où Hitchcock s'apprête à tourner le film qui sera son film fétiche, enfin son film favori, et que personnellement je considère comme chef-d'œuvre absolu, qui est L'Ombre d'un doute. Et ce film, il le tourne au moment où sa mère, qui est donc pas sous les bombes, mais quand même avec le peuple anglais qui tremble un peu... sous les bombardements allemands, sa mère est sur le point de mourir. Et elle va mourir, effectivement, pendant le tournage du film, pendant que lui tourne. Et c'est sûrement pas un hasard si la maman de la jeune fille du film, enfin la jeune fille qui s'appelle Charlie, comme l'oncle Charlie que joue Joseph Cotten, si la mère de famille, qui est un personnage magnifique, se prénomme Alma. Mm-hmm. Se prénomme Emma comme la mère d'Hitchcock.
Parce qu'Alma, c'est sa femme.
Oui. Oui. Et on sent une espèce de nostalgie de la vie familiale dans le film. Enfin, c'est même plus que ça, d'ailleurs. Parce que le drame, Hitchcock arrive à concentrer tout son art du suspense dans une histoire de famille. C'est-à-dire que la bombe, elle est dans la famille elle-même. C'est la famille elle-même qui est en train d'exploser, quoi. Mmh. Et effectivement, on peut y trouver. Enfin, je sais pas. Moi, j'y trouve. Même si le film se passe dans une petite ville américaine de la Californie du Nord, la ville de Santa Rosa. Et j'en parle deux secondes pour dire qu'en ce moment même, elle est dévorée par les flammes. Et toute la population de Santa Rosa est en train de fuir. Alors que c'était vraiment la magnifique petite ville avec les maisons en bois de style gothique. Là, on est... En fait, ça pourrait être l'Angleterre. C'est-à-dire que Hitchcock arrive à transposer complètement son univers à lui, son univers intime, dans un décor qui est américain. Donc il est vraiment devenu américain à ce moment-là. Et il va devenir vraiment un cinéaste américain.
Mais est-ce que son univers intime est aussi perméable au soubresaut quand même terrible du XXe siècle? On a l'impression que non. C'est comme s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Le Blitz, bon, il s'en rend un peu compte à travers sa mère. Et puis après, il y a quand même toute l'histoire des camps. Il n'y a rien dans le cinéma de Hitchcock qui semble montrer qu'il a quand même regardé ça.
Oui, Hitchcock a quand même fait un petit voyage, enfin un séjour en anglais avant la fin de la guerre pour faire un ou deux films de propagande. Bon, mais c'est vrai que c'est...
Il a voulu s'engager pendant la guerre, mais oui. on lui a pas donné la possibilité de le faire.
Oui, il a quand même essayé, mais c'est vrai que son univers est pas là du tout. Enfin, je veux dire, son projet à lui est quand même un peu égocentré, quoi, effectivement. Ouais, ouais.
Les années 70-80, puisqu'il va mourir le 29 avril 1980, c'est des années qui continuent à être des années de travail. Le dernier film, ça doit être quoi, vers 1976, quelque chose comme ça, François Rivière?
Le dernier film, c'est Complot de famille, qui tourne en 75. Qui une fois de plus un film adapté d'un roman anglais que personne ne connaît, qui devient totalement américain parce qu'il situe l'action, alors là on sait pas trop où, mais ça ressemble plus à la Californie qu'à la province anglaise. Il n'a pas réussi à avoir des grands acteurs, parce qu'au fond il a quand même eu souvent ce problème des acteurs qui refusaient, pour Frenzy par exemple, qui a un film complètement anglais, il voulait avoir Michael Caine, il l'a pas eu parce que Michael Caine trouvait que le rôle était quand même un peu limite.
Ils avaient peur peut-être d'être maltraités aussi, les acteurs.
Oui, je pense que ils devaient faire peur. Ils faisaient sûrement peur aux acteurs. Ils les rudoyaient quand même pas mal. Mais Complot de famille, que j'aime bien, moi, est vraiment le testament. Mmh. D'ailleurs, il y a une scène dans un cimetière, et même l'apparition d'Hitchcock, comme il le pratiquait chaque fois, cette apparition furtive à un moment du film, elle se fait dans un établissement où on contrôle les naissances et les morts. Enfin bon, il y a vraiment cette volonté de dire bon, je vais tirer ma révérence. Il a commencé juste après à travailler sur un autre film, mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout.
Et Alma meurt 2 ans après, le 6 juillet 1982. Il y a encore l'histoire de l'épitaphe sur la tombe de Alfred Hitchcock. J'en parlais au tout début de l'émission en réponse à une spectatrice qui lui aurait demandé laquelle il aimerait voir gravée sur sa tombe. Il avait répondu eh bien, voilà ce qui arrive quand on a était un méchant garçon. Merci François Rivière. Et je renvoie nos auditeurs à votre livre Épitaphe pour Alfred Hitchcock, encore une épitaphe, parue en 2018 aux éditions Payot. Tout de suite, c'est en compagnie des revues.
Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
et en compagnie aujourd'hui de la revue Page des Libraires que vous représentez, Guillaume Ledoirin. Bonjour à vous.
Oui, bonjour.
Vous nous parlez d'abord de l'essai d'un grand amateur d'Hitchcock, justement, Tanguy Viel, un essai qui s'appelle Iceberg. De quoi s'agit-il ?
Alors oui, effectivement, Tanguy Viel est un grand amateur de Alfred Hitchcock, et pour cause, il a fait un livre sur lui. Et là, Iceberg, c'est un essai dont le sujet principal, en fait, c'est son panthéon d'auteurs qu'il cite, qui ont tenté de consigner la matière mentale, le flux qui passe dans l'esprit, et qui ont tenté d'en faire une œuvre. Alors effectivement, il nous emmène vagabonder, se promener au milieu de Robert Burton, Montaigne, Dante, Christine de Pizan. Alors toutes ces rencontres sont effectivement vivifiantes et enthousiasmantes. Et puis j'ai envie de dire que surtout la partie, moi, qui m'a intéressé, c'est ce qui est un peu sous l'eau, la partie immergée de cet iceberg. Et c'est comment Tanguy Viel va tenter de se débrouiller avec la matière littéraire. Donc effectivement, pour lui, la création d'un livre, bah, c'est une ligne droite dans laquelle il essaye de mettre beaucoup de pensées qui fuient. Et comment va-t-il réussir justement à faire rentrer toute cette pensée qui fuit dans cette ligne droite ? Et ben finalement, c'est en fréquentant Michel de Montaigne, qui lui a consigné sa pensée dans ses essais. Et finalement, il crée, je dirais, une sorte de sentence tout à fait étonnante qui serait un « et après tout », qui lui ouvrirait la porte de l'écriture, donc qui nous permet de lire Tanguy Viel, et c'est un véritable plaisir.
Et c'est comme d'habitude pour Tanguy Viel aux éditions de Minuit, alors que chez Gallimard, on retrouve Sylvain Tesson avec La Panthère des Neiges.
Alors effectivement, La Panthère des Neiges, moi, c'est un livre qui m'a pas mal plu. Alors c'est une expédition qui se monte avec Vincent Munier, qui était un photographe animalier, et Sylvain Tesson, que l'on connaît comme écrivain voyageur. Tous les deux, moi, ce qui m'a plu déjà, c'est l'alliage entre ces deux hommes qui sont très différents. L'un est plus urbain que l'autre, l'autre est plus sauvage que... Ils sont très différents l'un de l'autre, mais en tout cas... Ce qui est assez fort, c'est qu'ils se respectent beaucoup, ils s'apprennent beaucoup de choses l'un l'autre. Et surtout, Vincent Munier va apprendre l'affût à Sylvain Tesson pour tenter de débusquer cette, démasquer, si on peut dire, cette fameuse panthère des neiges. Et en fait, moi, ce qui m'a plu, c'est comme un gant retourné, finalement, cet affût va complètement s'inverser. Et c'est en ayant cette vision de cette panthère que finalement, elle va avoir un effet cathartique sur Sylvain Tesson. Ça va faire remonter chez lui des sentiments, notamment, il y a des très belles phrases sur sa mère décédée il y a quelque temps, et puis une femme aimée qui n'est plus avec lui. Donc ça va vraiment avoir un effet cathartique sur lui, et puis finalement cette panthère va donner le tempo, elle va faire prendre conscience à Sylvain Tesson qu'en fait il n'est pas un être immobile et silencieux, il est bien tout le contraire, mais justement cette panthère va donner le tempo du livre, à savoir leur apprendre à tous la patience.
Et puis un tout petit mot aussi sur le livre de l'écrivain turc Ahmet Atlan, qui livre un témoignage de prison.
Alors effectivement, c'est un récit de prison, mais grâce à ça, il va en faire une matière littéraire. Alors effectivement, c'est beaucoup de petits textes très forts, très puissants, et surtout, moi, ce que je noterais, c'est que cet écrivain a un petit diamant au fond de lui qui lui permet de résister, c'est le frottement auprès des grands écrivains, dont Tolstoï, et ça va lui permettre finalement d'avoir de la distance et de résister.
Et c'est chez Actes Sud. Merci beaucoup, Guillaume Ledoirin. Tout ça et puis de nombreuses autres critiques sont à retrouver dans votre revue Page des Libraires. À très bientôt. C'est La Compagnie des œuvres, une émission de Laurence Millet, Laurence Genepin, Didier Pinoane, Vanessa Prévost, Hélène Rivière et Théo Gomard. Nous poursuivons demain notre exploration du monde d'Hitchcock. Ce sera avec un parcours des grands thèmes de l'œuvre en compagnie du critique Thierry Jousse.